Donc bonsoir, Stéphanie Benson, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous recevons ce soir pour une naissance d'une collection, on peut dire ?
Oui, ah oui.
Donc cette collection s'appelle Tiptong, aux éditions Cyros. Et donc il y a déjà 4 titres à la collection. Donc on pourrait commencer par la naissance réelle de cette collection. Depuis quand ? Comment ?
Alors la collection est née vraiment suite à une conversation que j'ai eue avec 2 collègues en didactique au mois de juillet 2012, où j'avais exprimé mon intérêt pour la didactique et ma volonté de rejoindre l'équipe en didactique de l'anglais. Et les collègues étaient très contentes en me disant surtout on est vraiment content que ce soit toi parce que tu écrives un jeunesse. Et on a déjà commencé un projet de recherche pour tester l'impact de la littérature jeunesse en classe de langue. Donc leur projet pour démarrer a été mené en 2010, je pense, avec une classe de 5e, où elles ont eu des subventions pour acheter un livre pour chaque élève, un livre d'ado, un livre jeunesse, pour chaque élève dans cette classe difficile, donc une classe du Grand Parc, pour essayer de stimuler l'intérêt des élèves pour la langue anglaise. Un livre donc, qui était pour les élèves de leur âge, mais en anglais. Donc les résultats de cette expérience étaient que l'objet livre, oui, incite à lire, incite à découvrir la langue anglaise, mais le grand obstacle qu'elles ont rencontré était le tout anglais pour un certain nombre d'élèves, pas pour tous. Certains n'ont pas vu d'obstacle là-dedans, ont commencé à se lancer dans le roman, et certains l'ont même fini alors qu'ils n'ont pas fini en classe. Donc cette conversation en juillet 2012, c'était qu'est-ce qu'on peut faire pour franchir cet obstacle de le tout anglais, la première page, je ne comprends rien, c'est trop dur, il me faut un dictionnaire, je ne vais pas lire avec un dictionnaire, et un certain nombre d'élèves qui donc décrochent. Donc on s'est dit, eh bien, faut commencer avec le français, pour les emmener petit à petit dans la langue anglaise. Tout en sachant qu'en disant ça, on provoquait un tremblement de terre dans les habitudes d'enseignement des langues en France, où depuis un certain nombre d'années, on prône le « tout langue étrangère » dans la classe. Donc, c'était un pari. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les élèves vont adhérer? Est-ce que les professeurs vont adhérer? Et pendant l'été, donc on a ciblé la même classe pour commencer, les 5e. Donc pendant l'été, j'ai écrit une histoire. Donc on a réfléchi un peu toutes les trois à ce qu'il fallait mettre dedans et comment amener cette langue anglaise. Donc situation réaliste, c'est-à-dire un héros qui se trouve dans une situation où il est obligé de parler anglais. Donc avec toute la narration en français, du moins au début, les dialogues des anglais en anglais, mais réexpliqués de différentes manières, avec différentes stratégies discursives de comment on dit ce qui a été dit en anglais pour que le lecteur comprenne. Et en ciblant aussi au niveau des programmes, le niveau qui était mis en avant très clairement dans les programmes de l'éducation nationale. Des petites phrases, des choses comme en 5e, on commence à savoir écrire une lettre avec des mots simples pour dire où on est, ce qu'on est en train de faire, etc. etc. Donc j'ai pris un certain nombre des éléments du programme et j'ai écrit cette histoire qui était la première version de Peter. Ah, je ne l'ai pas là. Bon, tant pis. De Peter et le mystère du Headless Man, que j'avais intitulé pour commencer simplement Peter et le Headless Man. Le texte était plus court que cette dernière version. Il était plus difficile aussi. C'est-à-dire que j'avais voulu cibler un niveau supérieur au niveau du cinquième volontairement, mais je me suis rendu compte par les retours que j'avais ciblé trop haut. Et dans cette première version, j'avais également mis en fin de chaque chapitre des questions de compréhension pour que l'élève puisse ou le lecteur puisse lire les questions et voir ce qu'il avait compris du chapitre. Donc des questions qui revenaient sur l'action et qui orientaient un peu la compréhension. Et nous avons envoyé ça, donc on a fait un appel aux volontaires sur le site des professeurs de langue vivante. On a donc récolté un certain nombre de professeurs qui sont d'enseignants du secondaire qui sont portés volontaires. Et on a envoyé une version PDF qui a été testée dans une vingtaine de classes avec 7 professeurs. Donc certains professeurs l'ont essayé avec juste une classe ou avec un groupe, d'autres avec toute leur classe. Et on a envoyé très rapidement après des questionnaires aux professeurs et aux élèves, des questionnaires assez détaillés avec des réponses oui-non et puis des réponses où les élèves pouvaient s'exprimer un petit peu plus. Donc à partir de ces questionnaires, j'ai fait un tableau Excel pour pouvoir sortir les pourcentages que j'ai transformés en camembert, etc. Et on a analysé ces réponses. Donc, en gros, le concept a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu aux élèves. Les élèves, l'idée d'aller lentement dans la langue anglaise et d'avoir des explications en cours de route, ça, on a eu toute évaluation confondue de l'ordre de 96 réponses positives là-dessus. Donc, pour nous, ça, c'était gagné. Après, on a eu un certain nombre de réponses moins positives, surtout de la part des élèves sur les questions en fin de chapitre. Les élèves aimaient bien l'histoire, avaient envie d'autres histoires du même genre, on a posé la question aussi, mais ils n'aimaient pas le côté scolaire des questions auxquelles il fallait répondre. Certains professeurs ont trouvé que ça allait très vite, que l'entrée dans la langue anglaise allait très vite. Certains professeurs ont trouvé qu'il y avait beaucoup de vocabulaire et que le fait que pas tout le vocabulaire ait été expliqué était un obstacle à la compréhension des élèves. Et certains professeurs ont eu du mal avec l'idée qu'on introduisait la langue française en classe de langue. Pour ces professeurs-là, la classe de langue était un endroit où il n'y avait que de l'anglais, qui pour moi était... Bon, je tiens compte de cette réponse-là, mais pour moi, c'était un faux problème. Pour moi, un texte qui démarre en français n'empêche pas le professeur lui-même ou elle-même de faire son cours tout en anglais. Ça veut juste dire, comme on en discutait tout à l'heure, parfois en classe de langue, si certains élèves n'ont pas compris, on va demander à d'autres élèves qui ont compris de traduire, de manière à ce qu'il y ait une compréhension globale, mais que le professeur continue, lui ou elle, de faire son cours en anglais. Donc voilà, à partir de ces retours, on a, avec ma collègue en didactique, nous avons fait une présentation lors d'un colloque qui se tenait à Bordeaux-Montaigne sur la question de l'interlangue. Je pense qu'on reviendra sur l'interlangue.
Oui, on peut tout de suite. Hein. C'est une notion très étonnante pour nous, apprenant anglais, par exemple.
La question de l'interlangue, c'est une théorie, une observation, je ne sais pas trop comment la qualifier, une notion, un concept qui a été créé en 72 par un chercheur qui s'appelle Selinka, qui a observé que dans tout apprentissage d'une langue étrangère, il y a un moment où on va utiliser l'architecture, la structure de base de sa langue maternelle et on va plaquer des mots de la langue étrangère dessus. pour pouvoir s'exprimer en langue étrangère. Et au fur et à mesure de la progression en langue étrangère, cette interlangue, ce plaquage de mots ou de bouts de phrases sur une structure étrangère, autre, disparaît. Et donc, pour Selinker, cette question de l'interlangue, le moment où un élève de première dans un débat en classe va dire « me, I think that » ou « me, my opinion is that » montre que la langue est en cours d'acquisition, que la langue étrangère fait partie déjà des outils de l'apprenant. « The me, I », ça n'existe pas en anglais, c'est « moi, je ». Moi, je pense que, qui n'est pas un problème dans un débat en français, alors qu'en anglais, on ne l'utiliserait pas. Mais ce que dit Selinker, et ce qui a vraiment changé notre manière de voir l'apprentissage de la langue étrangère, c'est que ce n'est pas une erreur. C'est juste un processus normal d'acquisition de langue étrangère. On ne passe pas jamais, à partir du moment où on a une première langue, on ne passe jamais tout de suite à la langue étrangère de manière parfaite, avec sa syntaxe, avec ses manières de fonctionner. On commence toujours par s'appuyer sur la structure langagière existante. Et donc, depuis, on essaye de travailler avec des professeurs de langue et avec l'enseignement des langues en général sur la notion d'erreur. Qu'est-ce qu'une erreur en langue étrangère? Si on met l'adjectif après le nom ou avant le nom, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce que c'est vraiment une erreur? Ou est-ce que ce n'est pas juste un signe que la langue est en cours d'acquisition? Et donc, on peut utiliser cette interlangue pour dire à l'apprenant, oui, c'est très bien, tu as utilisé le bon nom et le bon adjectif. C'est juste qu'en anglais, ils sont dans l'autre sens, alors que toi, tu les as utilisés comme en français, il faut juste les changer de sens. Et que ce type de discours aide à l'apprentissage de la langue. Le fait de donner une équivalence dans la langue maternelle plutôt que de juste dire « non, c'est faux ». Non, a priori, ce n'est pas faux. Si on dit à un anglais « I've got a ball red », il va comprendre. Il va comprendre qu'on a une balle rouge. Il va juste se dire, tiens, ce n'est pas dans le bon sens. Donc, on est beaucoup revenu sur le statut de l'erreur grâce à cette notion d'interlangue qui a vraiment été très, très importante pour la didactique.
Oui, ce statut de l'erreur, d'ailleurs, je voulais en parler avec vous, qui est quand même un inhibant très, très fort dans l'apprentissage, enfin... Moi et certains, peut-être, de ma génération ont pu se retrouver à apprendre l'anglais et c'était quelque chose qui était vraiment proscrit très fortement en classe. On ne pouvait pas faire d'erreur. De même qu'on ne pouvait pas avoir un mauvais accent. Tout le monde avait un mauvais accent. Je suspecte même des professeurs d'avoir eu des mauvais accents.
Bien sûr.
Mais ce n'était pas possible. Alors, est-ce qu'on peut parler correctement anglais avec un accent français?
Évidemment, évidemment. Comment on peut parler correctement le français avec un accent anglais?
Je ne vois pas ce que vous voulez dire du tout.
Évidemment, et ce sont des choses sur lesquelles on est vraiment en train de revenir avec la nouvelle génération de professeurs dont on a certains dans la salle. L'erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage, on le sait. On sait, on parle de trial and error en anglais, on ne réussit jamais du premier coup en français. On sait que pour réussir à faire quelque chose, il faut passer par des tentatives qui sont des tentatives non pas erronées, mais qui n'aboutissent pas. Ça fait partie de ce que c'est d'apprendre, quoi que ce soit, pas que les langues. Et donc, pour revenir à mon historique, voilà, on a présenté notre projet dans ce colloque autour de l'interlangue avec ma collègue Françoise Bonnet. Et on a eu un retour qui dépassait vraiment d'abord nos expectations. Enfin, on était très, très contente de ce qu'on avait fait. On était très contente, très enthousiaste. On trouvait que ça marchait bien. Mais on a eu un retour de la part des collègues qui était... non seulement enthousiaste, mais qui nous donnait plein de pistes d'exploitation de ce type de travail dont certains collègues nous disent « mais il faut absolument faire publier ça ». Est-ce qu'on ne peut pas faire publier ça par les presses universitaires de Bordeaux? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un vrai éditeur? Enfin, discussion. Ensuite, mais il ne faut pas en rester là. Il faut aussi utiliser les technologies de l'information, de la communication, créer un site web avec des exercices, des jeux pour les élèves ou tout ce que vous, on vous reproche de mettre des exercices de compréhension dans le livre, vous sortez les exercices du livre et vous les mettez sur un site. Et du coup, on garde la spécificité lecture, plaisir, roman, et on fait des choses ailleurs pour ceux qui veulent, pour renforcer la compréhension. Donc, OK, et sur ce site, est-ce qu'on met des exercices de grammaire ou pas? Est-ce qu'on met des fiches de grammaire ou pas? Donc, on est tous sortis de ce colloque avec beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. On s'est réunis, on a continué de discuter. Et là, je suis allée voir Cyros, donc, qui était un éditeur jeunesse avec qui je travaillais depuis de longues années déjà. Donc, je les connaissais bien, on avait bien travaillé ensemble sur un certain nombre de projets. Et je me disais, c'est peut-être eux. En fait, c'est une libraire qui m'a dit d'aller voir Cyros. C'était une libraire à Gradignan à qui je parlais du projet en regardant d'autres livres bilingues, en disant quand même ce qu'on veut faire, c'est très loin de ça. Et la libraire m'a dit, mais essayez Cyros, ils font quand même beaucoup de choses assez novatrices. Donc, je suis allée voir Cyros avec des collègues de Bordeaux-Montaigne. Et on a convenu que Cyros ont été très enthousiastes. On a convenu qu'on allait créer un partenariat entre les éditions Cyros qui allaient, eux, s'occuper de la publication et Bordeaux-Montaigne qui allaient s'occuper du site web et de tout l'environnement autour de ce projet-là. Et voilà, après, c'était de revenir sur Peter en intégrant toutes les réserves des enseignants. Peter, dans sa première version, avait 6 chapitres. On a divisé tous les chapitres. On a rallongé l'entrée dans la langue pour que ce soit encore plus progressive. On a aussi décidé de viser des apprenants plus jeunes encore. Donc, avec l'écriture de 3 autres romans.
À venir, c'est ça?
C'était ceux-là.
Ah oui, voilà, d'accord, à partir de là.
En fait, j'en ai écrit 4. Dans un, on a beaucoup discuté autour, mais Cyros tenait aussi, comme dans Peter, à ce que ce soit très positif. Il y a un peu un moment donné, mes racines de romans noirs et de polars un peu difficiles et des histoires compliquées remontées à la surface. Donc, j'ai écrit une histoire que Cyros a trouvée trop dur, trop noir. Les filles de Cyros tenaient vraiment à garder le côté très enthousiaste des
et
histoires.
Et un peu aventure aussi.
Plus aventure que policier proprement dit. On tient à garder les apprenants dans une atmosphère de confiance. Et donc, on peut jouer avec un peu de suspense, mais pas avec des choses trop difficiles, trop noires, qui vont trop heurter la sensibilité ou les difficultés d'adolescence trop évidentes. Et donc voilà, on est venu à ces 4 romans avec un énorme, énorme travail sur le texte.
Oui, vous pouvez nous raconter un peu? Parce qu'en fait, vous faites quoi? Vous écrivez d'abord l'histoire tout en français?
Ah non, pas du tout. Ah non, moi j'écris l'histoire...
Telle qu'elle est là.
Telle qu'elle est là. C'est-à-dire, j'écris l'histoire où le personnage va avoir un premier contact avec la langue anglaise. À son arrivée, où Peter reçoit un courrier de ses cousins, chez qui il va passer l'été. Sa maman est anglaise, mais il ne parle pas anglais à la maison. Donc, ils reçoivent en premier lieu une lettre de ses cousins qui ne comprend pas. Comme ses parents sont un peu en crise, il ne veut pas leur demander de traduire, ou à sa maman de traduire. Donc, il se dit, je vais me débrouiller. Et suit toutes les démarches de Peter pour venir à bout de ce texte en anglais qui n'est pas si évident que ça, alors qu'il y a 5 lignes. Et les autres, c'est pareil. C'est-à-dire, moi, j'écris en me mettant à la place de ce jeune héros avec ses premiers contacts avec la langue anglaise où rien n'est évident. Enfin, tous ceux d'entre nous qui ont appris une langue étrangère, quand on commence à se remettre dans la peau de comment c'était au début, parce qu'on ne peut pas faire ça avec sa langue maternelle, malheureusement. En fait, on fait tout ça avec notre langue maternelle aussi. Et après, on oublie. Sans doute pour pouvoir avancer encore plus, mais on ne peut pas revenir à l'âge de 1 an, 18 mois, 2 ans, où
on commence à apprendre et à maîtriser.
On commence à comprendre, on émet des hypothèses, on se trompe, on se rend compte qu'on a pris un mot pour un autre. Tout ce qu'on fait dans notre langue maternelle, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas se remémorer tout ça. Alors qu'avec une langue étrangère, surtout en position d'écrivain, donc je me mets dans la peau du jeune héros, ça je peux le faire. Je peux revenir à mes premiers contacts avec la langue anglaise, française, lapsus, avec ces mots qui sont difficiles à prononcer, où on est tous morts de rire dans la classe, avec des répétitions en chœur pour pouvoir intégrer les verbes de différents types, etc. Et donc, je procède comme ça dans l'écriture. J'amène le héros ou l'héroïne dans un premier contact avec la langue et j'imagine, je repars dans tout ce qui pourrait être obstacle et tout ce qui aurait été obstacle pour moi si j'avais 9, 10, 12 ans et que j'étais confrontée à cette instance-là de langue étrangère.
D'accord. Et toute l'histoire se déroule comme ça jusqu'à la fin, en fait, dans cette...
Mais c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'anglais, de moins en moins d'explications. C'est-à-dire qu'on va essayer de reproduire... C'est pour ça que le travail d'abord d'écriture et ensuite de retour sur le texte est tellement compliqué. Parce qu'on va essayer de bâtir un peu comme l'enseignement en spirale... que les élèves de didactique connaissent très très bien, on va essayer de partir d'un point et de tourner autour et de bâtir à partir de là des choses de plus en plus compliquées, mais en gardant une relation avec cette première instance de rencontre. Et donc les stratégies qu'on va mettre en avant de la part du héros ou de l'héroïne vont revenir. Et l'héros ou l'héroïne va se dire « Ah oui, tiens, ça c'est le mot que j'ai vu là qui veut en fait dire ça. Ah tiens, ça c'est la structure. Ah oui, il faut que je me rappelle que l'adjectif et le nom ne sont pas dans le bon sens. Ah oui, il faut que je me rappelle qu'il y a deux dans une question en anglais, etc. etc. » Donc on travaille sur beaucoup de répétitions. Donc d'abord, c'est soit quelque chose d'écrit comme la lettre avec Peter, soit quelque chose d'entendu. Lilith, par exemple, est dans le TGV qui va à Londres. Elle entend une voix dans le haut-parleur leur expliquer où ils sont et où ils vont, le steward du TGV. Et en face d'elle, il y a un papa qui explique à son fils ce que le monsieur dans le haut-parleur vient de dire. Et le papa explique... aussi des stratégies de compréhension. Et dit aussi à son fils, finalement, parce que le fils dit « j'ai rien compris », et le papa dit « mais si, forcément, il y a des choses que tu as comprises ». Donc, n'essaye pas de tout comprendre. Il y a forcément des mots. Tel mot, ça ressemble au français. Ce n'est pas avec exactement le même accent, mais ça ressemble au français. Donc, on met en avant ce que nous, dans notre jargon, on appelle des mots transparents, mais qui est une stratégie de compréhension. On cible les mots qu'on ne comprend pas, on voit que ça ressemble à un mot qu'on comprend dans sa langue maternelle, et on construit à partir de là. Tom, c'est l'hôtesse de location de la voiture. Ils arrivent en Écosse, son père loue une voiture, il écoute la conversation, Et à partir de cette conversation, en discutant avec son père, il commence à mettre en place ses stratégies pour comprendre la langue. Et Hannah se retrouve ayant commis un vol. Elle ne peut pas demander beaucoup d'aide à qui que ce soit. Donc elle va chercher dans son dictionnaire que sa maman a mis dans sa valise avant de partir en vacances. Et là aussi, on travaille sur l'erreur. Il y a des choses qu'elle ne comprend pas. Elle traduit mot à mot, elle se rend compte que ça ne marche pas. Elle traduit la première partie d'un verbe, elle se rend compte que ça ne va pas. Et puis elle se rappelle, ah oui, le prof, est toujours en train de nous parler de phrasal verbs en anglais, donc verbe à particule, c'est-à-dire qu'il y a deux parties de verbe et je dois aller chercher dans mon dictionnaire plus loin que juste la première réponse. Et elle trouve, donc elle a mis en place une stratégie de compréhension, ne jamais s'arrêter au premier morceau d'un verbe, comme to wake up. To wake up, donc se réveiller en français, c'est en deux mots. Si on prend juste wake, to wake, on va trouver autre chose. Et ça ne va pas être compréhensible dans la phrase. Donc il y a ça tout le temps. Il y a du vocabulaire et des stratégies qui sont mises en place par les personnages qu'ils vont réutiliser tout au long de leur aventure. Donc, petit à petit, on a de plus en plus d'anglais parce qu'on réutilise les mêmes mots et on n'est pas obligé de les traduire. On va introduire aussi des verbes du dialogue très rapidement parce que c'est évident. Donc, on va passer de « good morning » dit l'hôtesse de l'air à « good morning said the air hostess ». On joue avec à la fois des mots transparents et le fait que c'est évident, c'est un dialogue, on a les marqueurs de dialogue, et que ça tombe juste sous le bon sens. Donc il y a de l'apprentissage qui est vraiment mis en avant, qui est explicité, où les stratégies sont données. Et en même temps, on joue sur la notion d'apprentissage implicite, qui est une notion qui a été travaillée par beaucoup de chercheurs américains, qui explique que lorsqu'un enfant lit ou écoute des choses, ou écoute la radio, écoute des adultes en train de parler, il y a toute une partie de l'apprentissage du langage qui n'est pas consciente. Mm-hmm. Elle se fait avec des hypothèses de compréhension, de sens que l'enfant fait malgré lui. Et donc on joue avec ça aussi dans les livres, avec des moments où on va juste dire, bon, ça, avec la volonté de comprendre, l'enfant va arriver à maîtriser.
D'accord. Alors, ça, c'est pour les livres, mais surtout les livres. Alors, TipTong, c'est aussi un projet donc, qui est avec l'université. Et donc, l'université va intervenir aussi. C'est surtout sur le MP3, puisque vous allez faire travailler vos étudiants à la lecture. Ouais. De ces textes.
Alors, l'université intervient à plein de niveaux, en fait. Donc, l'une de ses suggestions dans le fameux colloque où on a présenté la chose était, mais il faut une version audio. Il faut une version audio parce que comme ça, on peut avoir des vrais accents. Quand Tom part en Écosse, on a des vrais accents écossais autour de lui. Quand Hannah part en Irlande, on a des vrais accents irlandais. Et tout ça participe à ce que les apprenants se rendent compte de l'immense variété d'accents qu'il y a même à l'intérieur des îles britanniques. Et du coup, cette histoire d'accent devient de moins en moins importante. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un bon anglais avec un accent français ? La question de tout à l'heure. Il y a plein de British qui parlent anglais avec un accent du nord de l'Angleterre, avec un accent de l'ouest, avec un accent même quand on fait un petit tour dans les îles britanniques, on se rend compte de la variété d'accents. D'accent sur les voyelles, d'accent sur les consonnes, un peu comme en France, un peu comme n'importe où, mais de manière beaucoup plus prononcée. Il y a beaucoup, beaucoup d'accents en anglais. Et du coup, pour moi, l'accent français, c'est pas problématique parce que de toute façon, des anglophones passent leur temps à adapter leur oreille à beaucoup, beaucoup d'accents différents qui sont des vrais accents anglais, si j'ose dire. Vrais.
Vrai.
Donc voilà, nous avons dit, OK, on va enregistrer ces livres. Alors, il y a un certain nombre de problèmes qui se sont posés d'abord parce que dans trois des romans, il y a une narration extérieure, il y a une voix narrative qui est donc bilingue, puisqu'on passe progressivement du français en anglais. Donc il fallait quelqu'un qui ait un accent aussi authentique que possible dans les deux langues. Donc, nous avons ça chez nous à Bordeaux-Montaigne. Nous avons un phénomène qui s'appelle Antoine Hertley, qui a un don phénoménal, qui enseigne la phonologie, entre autres, et qui a un don phénoménal pour les accents. Et aussi bien des différents accents en anglais que l'accent anglais standard, il est impressionnant. Donc, j'ai demandé à Antoine s'il voulait participer au projet. Il m'a dit oui tout de suite. Et ensemble, nous avons commencé à réfléchir sur comment faire ça. Il nous semblait que, comme tout bon livre audio, il fallait que ce soit un peu joué, donc un peu théâtralisé. Nous avons aussi un collègue, Lionel Larré, qui travaille beaucoup sur le théâtre avec ses étudiants et avec des collègues. Donc, j'ai demandé à Lionel s'il accepterait de faire la mise en voix, en mise en scène. Il a accepté aussi. Et ensuite, on s'est dit, mais il faut impliquer les étudiants, de toute façon. Donc, j'ai fait un appel aux candidatures des étudiants de L3 en didactique pour voir si certains d'entre eux voulaient venir enregistrer les livres. Donc, on a eu des réponses très positives aussi. Et puis, on a sollicité nos assistants anglais, qui, nous, on les appelle des lecteurs, qui viennent un peu partout. Donc, on a des lecteurs canadiens, états-uniens, irlandais. On n'a pas eu de lecteurs écossais, mais on a joué avec des Irlandais qui savaient faire un accent écossais et des Anglais qui savaient faire un accent écossais. Et voilà, et à partir de là, donc, avec Antoine, chaque fois, on voyait les différents personnages, on se demandait qui pouvait faire quoi. Antoine contactait les lecteurs anglophones, moi je contactais les étudiants, et on a donc eu 4 journées d'enregistrement à Bordeaux 3, dans les labos, à l'étage des labos, pour enregistrer et puis monter les livres audio qui... Comme ces livres audio étaient financés en partie par Bordeaux-Montaigne et en partie par Syros sur son budget d'édition, le livre audio est gratuit. C'est-à-dire qu'on peut aller télécharger le MP3 gratuitement soit sur le site de Syros, soit sur le site de Bordeaux-Montaigne. Et le site de Bordeaux-Montaigne englobe aussi. Donc, sur Bordeaux, sur Syros, on a mis tous les livres audio en un seul MP3. Sur Bordeaux-Montaigne, on a fractionné pour que les enseignants puissent se servir de juste un chapitre et de demander aux élèves de lire et d'écouter. On peut le faire en même temps. On peut diffuser l'audio et demander aux élèves de lire en suivant l'audio. On peut demander aux élèves d'écouter avant de lire avant d'écouter. On peut faire ce qu'on veut avec ça, puisqu'on est fractionné chapitre par chapitre. Et on a fait les mêmes choses avec des jeux en ligne. Donc là aussi, on s'est posé la question, est-ce qu'on fait des rappels de grammaire? Est-ce qu'on explicite les questions grammaticales qui sont dans les livres? Et on a fini par dire non, ce n'est pas ça l'important. Et là, je m'appuie beaucoup sur des recherches en apprentissage des langues faites par des Américains qui ont, notamment au niveau de la frontière avec le Mexique, donc il y a énormément de travail sur le bilinguisme et sur les enfants hispanophones qui viennent en école non hispanophone. Et donc, voilà, comment on acquiert cette grammaire de la langue seconde qui est en semi-immersion, certes, mais je trouve que les travaux sont intéressants. Donc, ces recherches montrent que des élèves qui ne font pas du tout de grammaire, mais pas du tout, ont les mêmes résultats, voire parfois des résultats supérieurs en exercice même de grammaire à la fin de l'année que les élèves qui passent tout leur temps à faire des exercices de grammaire. Par contre, là où c'est vraiment parlant, c'est en production de la langue étrangère, les élèves qui n'ont pas fait de grammaire ont les résultats nettement supérieurs en production, aussi bien orale qu'écrite. Donc, enfin, les Américains en sont arrivés à la conclusion que les exercices de grammaire inhibent la production de la langue étrangère. Au contraire de faciliter, ça inhibe parce que le temps que le cerveau est en train de chercher la règle qu'il faut appliquer, la production n'est pas là. Et finalement, c'est en produisant qu'il y a énormément d'autocorrection ou de correction par les pairs qui entrent en ligne de compte. Donc, on a décidé pas d'exercice de grammaire du tout. On ne fait que des petits jeux de compréhension pour être sûr que l'histoire est comprise, surtout dans les chapitres vers la fin. Et des jeux de vocabulaire, parce que le vocabulaire, c'est quand même la colonne vertébrale d'une langue étrangère. Donc on s'est dit, plus les enfants ont de mots, même s'ils ne savent pas conjuguer un verbe, s'ils savent le verbe dont sa base verbale, ils vont pouvoir se faire comprendre et que la conjugaison viendra dans un deuxième temps, comme c'est souvent le cas avec la langue maternelle.
Oui, ce qui m'amènerait à la question, vous avez répondu, qui était, pensez-vous donc qu'il y ait des améliorations à apporter à l'apprentissage des langues étrangères en France?
Il y a toujours des améliorations à
Je parlais
apporter
d'un point de
à
vue
tout
scolaire, hein, bien sûr.
apprentissage, mais bien sûr, il n'y a pas de système idéal. Même si on nous montre en ce moment les systèmes scandinaves, notamment la Finlande est aussi un modèle, oui, vraiment, avec des rapports entre professeurs et élèves qui sont très détendus, avec un apprentissage adapté aux élèves, mais c'est global. C'est-à-dire, c'est un système très, très différent du nôtre. Mais on est en train d'y arriver, je crois. Enfin, là, j'entendais les petits collèges où en sixième, on arrête les notes. On a des classes sans notes en sixième, de manière à mettre les élèves en confiance plutôt qu'en l'angoisse de la mauvaise note. Parce que l'angoisse de la mauvaise note, c'est l'élève dans la classe qui se sent plus ou moins humilié par rapport aux autres, mais c'est aussi la crainte de je rentre à la maison, je vais de nouveau avoir la pression. Et je ne veux pas stigmatiser les parents du tout. C'est pas évident non plus de dire ah, tu as eu que 5 sur 20, c'est pas grave. On a tous peur pour l'avenir de nos enfants, on voudrait tous qu'ils réussissent. Et donc, cette pression-là, elle est entretenue un peu par un système qui est contre-productif. Alors qu'on peut très bien faire des choses autrement et que l'école peut très bien montrer que ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Après, oui, il y a des tas d'expériences qui sont en train de se faire en ce moment, depuis l'instauration du cadre européen commun de référence pour les langues. Les vacances sont passées, là. Il faut que je me remette tout ça en tête. Et la notion de compétence en langue, c'est-à-dire on met l'accent sur ce que les élèves savent faire plutôt que sur ce qu'ils ne savent pas faire. Et le travail par compétence qui déjà laisse beaucoup moins de place à la grammaire et beaucoup plus de place à des petites activités où le cadre européen s'appuie également sur une notion en didactique qui s'appelle l'actionnel, l'apprentissage par l'action, perspective actionnelle ou action-based learning en anglais. Donc, c'est quelque chose qui nous vient des anglo-saxons, en partie, mais aussi des Scandinaves, où toutes les recherches montrent qu'un enfant qui est passif, qui écoute un professeur, apprend beaucoup moins qu'un enfant qui est actif et qui expérimente lui-même des choses. On sait que si on écoute un discours pendant une heure, on en retient à peu près 5% de ce discours. Donc, vous allez retenir 5% de ce que j'aurais dit.
Ce n'est pas grave, Stéphanie, nous sommes enregistrés.
Si on écoute et que est projeté derrière moi en même temps le texte de ce que je dis, ou si vous avez un texte où vous pouvez suivre mon discours, vous allez retenir à peu près 15%. Si j'entre ici et je vous demande de me donner votre avis sur ce nouveau concept, de réfléchir à le fait de s'appuyer sur sa langue maternelle pour apprendre une langue étrangère, et je vous laisse un quart d'heure, 20 minutes de brainstorming entre vous et vous prenez des notes, là, vous allez retenir de ce que j'aurais dit après à peu près 50%. C'est-à-dire que dès que l'apprenant est mis en action et est investi dans ce qui est en train de se passer, il apprend beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, toutes les recherches le montrent. Et ça, on est en train de le mettre en place aussi bien dans le primaire que dans le secondaire, que dans les lycées. Et on arrive même à mettre ça en pratique à l'université. On est un peu les dinosaures du système éducatif pour l'instant. Mais on y travaille, on essaie de plus en plus de faire ce type de travail parce que ça marche très bien.
Bien, mais pour conclure, peut-être Stéphanie pouvait nous dire si d'abord la collection Tiptong va s'étoffer. Qu'est-ce qu'il est prévu pour la suite?
Ah oui, alors on est tous très 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 contents parce que ça marche très 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 bien.
En tant que libraire, je peux confirmer.
Alors ça marche dans les librairies, ça marche dans les écoles. On a aujourd'hui sur le site de Bordeaux-Montaigne, je n'ai pas regardé depuis 2-3 jours, mais la dernière fois que j'ai regardé, on avait 450 inscrits. C'est-à-dire des gens qui reviennent régulièrement sur le site et qui font des exercices et qui utilisent ce site et qui écoutent les MP3 sur le site. Les livres sont en troisième impression. Et donc, on se dit, on peut effectivement étoffer. Donc déjà, au mois de mai, on a commencé à réfléchir sur étoffer comment, pourquoi. Cyrus tient beaucoup à ce qu'on aille vers les plus petits pour vraiment donner quelque chose de très, très basique pour l'entrée dans la langue étrangère en partant du principe que le lecteur ne connaît pas du tout l'anglais. Donc là aussi, j'ai commencé à écrire 2-3 histoires mais qui me semblait très artificielle parce qu'il faut faire très court. Donc, on vise là les CE2, CM1. C'est petit. C'est pas vraiment mes lecteurs. En général, je commence à partir de la 6e en jeunesse. Et j'ai tenté 2-3 histoires qui me semblaient très artificielles. Et pour moi, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas cet enthousiasme et cet humour que j'ai pu mettre dans ces livres-là. Et donc, après, de nouveau, un colloque, et en discutant avec des collègues didacticiennes, je me suis dit, pourquoi pas m'appuyer sur le conte. Le conte en tant que base, c'est-à-dire l'histoire est connue. On est dans quelque chose de connu pour l'enfant, et on va jouer avec ça. Donc, le premier que j'ai vraiment finalisé s'appelle... Boucle d'or et les Strange Bears, où Boucle d'or et son frère Kevin partent en vélo dans les bois, tombent sur une maison étrange le toit est recouvert de végétation. Et sur la porte, c'est marqué « The Bear's House ». Bon, « The Bear's House », qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Boucle d'Or et son frère vont émettre plein d'hypothèses et puis finalement vont rentrer parce qu'ils sont perdus quand même. Hein, c'est comme dans la vraie histoire. Donc, ils rentrent pour demander leur chemin pour retrouver la piste cyclable parce qu'ils sont égarés en ramassant des murs. Donc, petit à petit, dans la maison, alors il y a des ingrédients, il y a des gâteaux qui refroidissent, il y a des pots. Sur les pots, il y a des noms marqués. Donc, on ouvre le pot, c'est marqué sugar dessus, et puis on se rend compte que c'est du sucre. Et l'autre, flour, on se rend compte que c'est la farine. Vous avez compris le principe. Et puis, à un moment donné, hypothèse, bear égale ours. Donc, Boucle d'Or et son frère sont pas très rassurés. Est-ce qu'on est vraiment dans une maison d'ours? Donc, ils entendent des voix étrangères, vont se cacher dans une chambre. Il y a des images d'ours partout, la grosse peur. Et en fait, bon, évidemment, les ours sont des Anglais. Et le papa anglais a plein de poils partout. Donc, pour jouer, sa femme l'a appelé Papa Ours, enfin, Father Bear. Et du coup, leur fils est devenu Baby Bear. Et les petits, avec toutes les hypothèses qu'ils ont émises avant et avec l'aide de ces Anglais qui vont leur donner juste deux, trois petites phrases, « Hello, I'm », etc., vont pouvoir communiquer. Et puis, donc, la famille Bear vont les ramener à la piste cyclable, les ramener chez eux, dialoguer avec leurs parents et dire « We'll see you soon ». Donc, des petites phrases très, très basiques. Donc, ça marche. J'ai essayé de faire la même chose avec Blanche-Neige. Pour l'instant, ce n'est pas encore abouti. Je vais y arriver. Donc, voilà, ces allers-retours entre Cyros et moi et des lecteurs piochés parmi les enfants, donc les petits-enfants de mes amis. Mais voilà, là, c'est une partie. L'autre partie, c'est qu'on ouvre à d'autres auteurs. Ce à quoi je tenais dès le départ, mais il fallait aller vite et on n'avait pas trop le temps. Donc là, je viens de coécrire un roman pour les 5e, 4e en coécriture avec Jake LeMahieu, qui est un auteur nord-américain de polar et qui vient du Bronx à New York. Et donc, il a écrit un synopsis assez développé tout en anglais. Et moi, j'ai écrit à partir de son synopsis, donc en mélangeant les stratégies, en rentrant progressivement en français. Et Jake a écrit le dernier chapitre. Parce qu'il se sentait, il parle français hein, plutôt bien, mais il ne se sentait pas d'écrire ni de mettre en place les stratégies. Donc on a fonctionné comme ça. Un autre texte a été écrit par un de mes collègues de Bordeaux-Montaigne, Nicolas Labarre, qui lui a situé son histoire dans le monde virtuel des jeux en ligne. Et puis, moi j'ai réécrit encore pour les plus petits, comme Tom et Hannah, qui se passent à Dublin, à Dublin. Et puis, on a demandé aussi à Sylvie Granotti, qui est auteure de romans noirs et qui a vécu 10 ans aux États-Unis, d'écrire une histoire. Alors elle a envie de coécrire avec son fils, qui vient de passer 2 ans aux États-Unis, et donc de jouer avec cette coécriture bilingue. Et puis, en 2016, on va commencer à ouvrir à des romans français-espagnol. Donc là, je ne suis pas du tout compétente. Donc voilà, j'ai demandé à un traducteur. Alors, il y a deux qui visent des CM2 6e. Donc on a séparé en deux. Le premier niveau, pour l'instant, vise les CM2 6e. Mais peut aller jusqu'en 5e pour des niveaux un peu faibles. Les histoires marchent encore avec, pardon, avec des élèves de 5e. Et là, on commence en 5e. et on va jusqu'en quatrième, troisième, voire seconde. J'ai aussi même des collègues de classe prépa qui m'ont dit, mais ça, c'est parfait pour des élèves qui entrent en prépa parce qu'ils ont des très bons niveaux par ailleurs. Oui, parce qu'il y a mené progressivement.
Oui, mais il y a une telle marge entre 5e et prépa.
Ah, mais l'élève de prépa va comprendre facilement. L'élève de 5e va avoir plus de mal. Donc, pour certains élèves de 5e, il vaut mieux commencer par les niveaux un peu plus simples, histoire de mettre en confiance. Oh. Ça, c'est pour les CM2 qui ont déjà fait un peu d'anglais.
Ils commencent à en faire à partir de la CE2. Voilà.
Il y a des écoles où les petits commencent en maternelle. J'ai une collègue didacticienne qui a élaboré toute une mallette de jeux pour la maternelle qui s'appelle Roxy and Me. Donc la mallette s'ouvre pour créer un petit environnement comme une maison. Et il y a une marionnette, Roxy, qui parle anglais avec les maternelles. Donc, c'est ça qui est compliqué dans ce genre de projet, parce que dans une même classe, on a des élèves, dans une même classe de 6e, on a des élèves qui font de l'anglais depuis 5 ans et des élèves qui n'en ont jamais fait, ou très peu, ou qui ont décroché très vite pour des raisons X, Y. Donc, de toute façon, comme je disais à un moment donné, il n'y a pas de système parfait. Ça, ce n'est pas une réponse à tous les obstacles de l'apprentissage de la langue étrangère. C'est juste un outil qui, nous semble-t-il, facilite la progression et l'entrée dans la langue étrangère de beaucoup d'élèves. En gros, les très bons n'ont pas besoin de ça. Ils vont aimer la langue étrangère, ils vont y aller, ils peuvent le lire pour apprendre 2-3 petites choses et juste pour le plaisir de lecture. Mais des très bons élèves n'ont pas besoin de nous.
Et il y a eu 4 ouvrages publiés.
Voilà.
On vous remercie beaucoup, Stéphanie.
Oui, merci à Mola de cette invitation et merci à vous d'être venue.